If I can be me, I think this is my success.
Pour moi, le succès, c'est un état d'esprit.
C'est atteindre le succès au bout de l'effort.
C'est être inspirée et réussir à mon tour à être inspirante pour le monde qui m'entoure.
C'est se sentir au bon endroit au quotidien, c'est-à-dire épanoui dans ta vie, dans ton travail et épanoui avec les gens qui t'entourent.
Ça peut être difficile, pas difficile, mais c'est vraiment se fixer un objectif et arriver à l'atteindre en se donnant les moyens et en mettant des moyens.
Même si... pour moi, voilà, j'arrive pas à ticker tout dans ma to-do list. Je sais que mes parents, ils seront fiers de moi quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça ma plus belle réussite.
C'est quelque chose qui se définit pas parce que t'as ce que tu possèdes, mais parce que tu ressens.
Bienvenue sur On Papers, le podcast qui fait parler les handballeuses sur le sport de haut niveau, sur ses parts d'ombre et la réalisation de soi, sur l'amour pour ce que l'on fait, et la santé mentale aussi. Mon but ? Déconstruire l'idée d'une définition unique de la réussite, linéaire et sans droit aux essais-erreurs, afin que l'on ose le courage de vivre des carrières sur mesure, intentionnelles et dingues, tout en se rappelant qu'être athlète, ce n'est pas être un super-héros. Je suis Melvine Debat et aujourd'hui, je reçois Olivier Krumbholz, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball.
Le travail va permettre de structurer la motricité et de libérer la joueuse. Plus l'art est travaillé, plus il est libre.
On ne reviendra pas sur tout son parcours. Je vous laisse consulter sa page Wikipédia pour ça. Mais il faut quand même avoir quelques dates en tête à son sujet. En 1998, Golden Year, il est nommé sélectionneur des Bleus. En 2003, il remporte son premier titre de champion du monde. Plus tard, il repartira avec des médailles d'argent et de bronze des grandes compétitions internationales. Et en 2013, il est remercié par la Fédération française de handball pour manque de résultats. Et enfin, en 2016, on le rappelle. Et depuis, l'équipe gagne tout. Et c'est ça qui m'intrigue. C'est de savoir comment est-ce que sa rupture avec la Fédération française de handball, comment est-ce que ce pas de côté a fait de lui un meilleur entraîneur, plus apte à atteindre les objectifs fixés. Dans cet épisode qui me fait un peu penser à un cours de philo, on a aussi évoqué une question très importante pour moi dans le sport de haut niveau, qui est de savoir s'il est possible d'avoir une ambition extrême et de vivre une aventure humaine extraordinaire. Je vous laisse découvrir notre conversation et je vous souhaite une très belle écoute. Pour commencer cet épisode, Olivier, on va évacuer l'actualité.
Très bien.
En août dernier, tu as remporté ton premier titre olympique avec l'équipe de France féminine de handball. C'était ta 6e Olympiade à la tête de cette sélection. Tu l'as beaucoup convoité, ce titre et cette médaille. C'était comment de l'avoir enfin autour du cou?
C'est une grande satisfaction, satisfaction qui est surtout intérieure. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à mesurer l'ampleur de l'événement. On le mesure assez bien ensuite quand on rentre en France, qu'on voit tous les gens que ça a rendu fiers. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'abnégation. Et pour moi, c'est un soulagement parce que les 4 premiers Jeux Olympiques, je n'ai pas ramené de médaille. Et donc, quand un entraîneur ne ramène pas de médaille, surtout dans un sport aussi exigeant que le handball français, on finit par se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce qu'il n'aurait pas une forme d'incompatibilité avec les Jeux Olympiques? Est-ce que le format de cette compétition particulière ne lui convient pas? Donc je trouvais ça quand même assez à la fois injuste, voire stupide. La médaille d'argent, 5 ans auparavant, avait déjà quand même beaucoup apaisé. Mais c'est vrai que l'or, la médaille d'or olympique, on salue surtout les médaillés d'or quand ils rentrent, un peu moins les médaillés d'argent et de bronze. Alors c'est tellement mythique les Jeux Olympiques que pour nous les sportifs, une médaille aux Jeux, c'est déjà une réussite.
Oui.
Mais comme c'était celle qui manquait à tout le monde et particulièrement à moi, elle fait encore plus plaisir.
En tout cas, félicitations. Le fait que tu parles de soulagement, ça me fait penser à ces athlètes comme Luca Ballo ou Simone Biles, qui à la fin de la compète, ou pendant, ont parlé du revers de la médaille. Ils ont beaucoup parlé de leur épuisement psychique. Est-ce que c'est des messages qui font écho chez toi ? Qu'en est-il de la santé mentale d'un entraîneur ?
Alors complètement, parce que, bon déjà, il faut le dire, et plutôt 10 fois qu'une, les programmes sont devenus totalement déments.
Ouais.
Il y a trop de matchs, les athlètes ne s'en sortent plus. On est un sport d'opposition, on est un sport de contact. Donc il faut quand même un petit peu de temps pour récupérer. Et malheureusement, les calendriers ne le permettent pas. Les calendriers ne le permettent pas aussi souvent parce que c'est un problème de finances. Là où un championnat du monde au football va durer 6 semaines, au rugby va durer quasiment 2 mois, eh bien nous, on est sur des formats beaucoup plus courts et on joue tous les 2 jours et même des fois, deux fois en 2 jours. Donc c'est très, très compliqué. Et comme il y a un stress supplémentaire aux Olympiques, il y a une préparation qui est plus longue, il y a eu des vacances écourtées,
ouais.
Psychologiquement, c'est épuisant.
Ouais.
Et quand on arrive, même avec la médaille d'or, quand on rentre avec la médaille d'or, on est, j'ai pas mal de filles qui me disent « je suis vide ».
Ouais, ça m'intéresse ça, ce que tu dis, parce que je me demande justement ce que ton expérience t'a appris de ce qui se passe après l'euphorie de ces grandes compétitions. Parce que tu dis « je suis vide », moi j'ai une amie qui a fait les Jeux Olympiques avec toi, qui est rentrée et qui est fatiguée, vraiment.
Tout le monde est fatigué, particulièrement les athlètes, parce que eux... Il y a tout ce qu'on fait nous, plus l'effort physique en plus.
Ouais.
Alors nous, mentalement, puis on a beaucoup de travail, mais c'est de la rigolade par rapport aux athlètes. Et c'est quelque chose d'épuisant parce qu'on veut tellement y arriver. Il y avait une telle ambition, une telle conviction qu'on pouvait le faire, qu'on s'est un peu épuisé avec des résultats qui étaient très en deçà de ce qu'il nous fallait pour le faire. Donc il y a une dichotomie entre ces deux éléments-là qui fait que on a tendance à travailler encore plus, réfléchir encore plus et puis s'épuiser un petit peu mentalement. On a peut-être dans cette compétition perdu un peu d'énergie qu'on aurait pu éviter de perdre.
Ouais, et en même temps j'imagine que c'est toute la complexité de l'excitation et de l'enjeu qui se mélange à ce moment-là. En tout cas, vous avez réussi à ajouter le dernier titre qu'il manquait au palmarès de l'équipe de France féminine de handball. Et il y a un truc qui m'intrigue dans ton parcours, Olivier, parce que il y a de ça 8 ans, en 2013, tu as été remercié par la Fédération française de handball. Après 15 ans passés à la tête de cette sélection, on a estimé que tu ne faisais plus suffisamment de résultats. J'imagine que tu n'aurais pas imaginé à ce moment-là revenir et devenir champion olympique. Moi, aujourd'hui... J'ai décidé de faire une pause dans ma carrière. Je suis un peu perdue. Et en même temps, c'est un endroit dans lequel je me recentre, alors je m'y sens assez bien. Mais bon, c'est moi qui l'ai choisi. Toi, en 2013, tu l'as pas choisi de faire une pause. T'as confié à des journalistes que t'as vécu comme une petite mort à ce moment-là. Donc pour rester sur cette métaphore, qu'est-ce qui est mort chez toi, ce jour-là ?
Pas mal de choses. Clairement, la confiance... La confiance envers la fédération, même si après j'ai fait... Tout s'est inversé quand ils m'ont fait revenir, parce qu'ils n'étaient pas obligés. Donc j'ai eu aussi une forme de résilience par rapport à ça. Mais le gros problème, c'est quand dans ces moments-là, on ne le voit pas venir. Et quand on a l'impression qu'on fait encore bien le job, qu'on sort en plus d'une qualification réussie, que ça va rebondir... On s'attend pas à être remercié. Donc c'est assez violent sur l'instant, mais aussi parce que je me croyais un petit peu propriétaire de la place. J'étais resté longtemps. Alors on peut philosopher, on peut réfléchir sur les résultats. Est-ce qu'ils étaient bons, est-ce qu'ils n'étaient pas bons. Il y a une vraie question, c'est quel est le potentiel d'une équipe. Mais pour revenir à 2013. Ça a été compliqué à gérer parce qu'on a un sentiment d'injustice et même de trahison. Clairement de trahison, on se sent un petit peu trahi, que ça soit par la fédération ou par les quelques joueuses qui ont plutôt œuvré à votre départ. Mais bon, après ça, Après, il y a une phase de digestion, comme dans toute chose. Il y a le moment, il y a le choc émotionnel au moment de la décision. Et puis ensuite, on se projette sur autre chose, parce qu'on peut faire 100 000 choses, en fait. Et la leçon pour moi de cette période, c'est que j'ai pris plaisir à faire autre chose que l'équipe de France.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait, du coup ?
Alors, je me suis investi. J'étais directeur de la compétition pour le Mondial 17 hommes, qui était un énorme, énorme événement en France. On a fini à entre 28 et 30 millions de budget, d'euros. Et c'était très gratifiant pour moi parce que je travaillais à nouveau avec des jeunes qui adoraient le sport, mais qui n'ont pas eu la chance de faire du sport de haut niveau à 90%. Bon, des têtes bien faites, des jeunes qui s'investissaient énormément, mais qui ne connaissaient pas les championnats du monde de handball, alors que moi, je les connaissais par cœur. Donc, je pense que j'ai eu un rôle central dans l'organisation, on va dire technique, de la compétition, où dans ma tête, j'ai essayé de mettre les athlètes au centre du dispositif. Parce que dans les championnats d'Europe et championnats du monde, j'ai tellement râlé sur une impression très désagréable que les athlètes n'étaient pas considérés, les athlètes et les coachs, hein, les équipes en général, que quand je me suis dit qu'on allait accueillir en France les meilleures équipes du monde au niveau masculin, il fallait que je sois très vigilant sur tout ce qui est important pour eux, la qualité des hôtels, la qualité des salles d'entraînement, la qualité des sols, qui est un élément majeur dans la pratique. Et ça a bien marché, ça m'a beaucoup intéressé. Le deuxième dossier que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, c'est la construction de la maison du handball. Et là aussi, j'ai trouvé super que la Fédération française de handball ait mis les athlètes au cœur du dispositif.
Ouais, ok. C'est vachement intéressant ça, parce que moi récemment, tu sais, dans un roman de Laurent Gounel que j'adore, je lisais que la vie des fois nous fait des cadeaux pourris pour nous permettre de cheminer. Et je trouve ça vachement intéressant que tu dises que tu as, grâce à cette expérience, eu une occasion de remettre l'athlète au centre. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais pas avant ?
Je pense que je le faisais moins. J'avais une méthode de coaching un peu plus brute de décoffrage. J'ai déjà dit que je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de tension, que je pensais que justement la tension, voire le conflit était générateur d'énergie. Il peut l'être. Mais c'est quand même très dangereux et très usant. C'est un petit peu comme l'énergie atomique, là, quand on vit à côté d'une centrale, on se demande si un jour, d'accord, ça nous donne l'électricité, mais est-ce qu'un jour, ça ne va pas nous péter à la figure ? Eh bien, le conflit dans les groupes de sport co, c'est un petit peu ça. Ça peut générer de l'énergie, mais c'est usant. Et j'ai dit que mon coaching, il était abrasif. Hein. Quand on passe du papier de verre sur la peau d'une joueuse, elle finit par être à vif. Et ça vient certainement d'un fait que quand on est jeune entraîneur, on veut vraiment être au centre de la victoire et on veut avoir un rôle majeur dans la victoire. Et ensuite, quand on prend l'expérience, on comprend qu'on devient un facilitateur. Voilà ce que c'est un coach. C'est un facilitateur, mais ce n'est pas un faiseur. Celles qui font, c'est les joueuses sur le terrain. Et on met du temps, quand on est jeune entraîneur, à comprendre qu'on ne marquera plus de buts et on n'empêchera aucun adversaire de marquer un but. Et c'est la théorie du coaching participatif, c'est-à-dire amener les athlètes à prendre leur destin en main et un petit peu s'effacer au fur et à mesure, comme des parents vont faire avec leur enfant. C'est-à-dire être très 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 présent au moment où on a besoin d'eux et ensuite s'éloigner. Et moi j'essaye de faire ça, c'est-à-dire si je sens que le groupe ou des joueuses ou une joueuse a besoin de moi, je vais me rapprocher. Mais quand je sens que ça fonctionne, eh bien, je m'éloigne. Bon, le meilleur exemple, c'est les temps morts. Les temps morts, déjà, sont des moments où il est difficile pour l'athlète d'intégrer 6, 7, 8 consignes. Un moment où il pense essentiellement à faire redescendre son cœur, boire un petit peu. Et à partir du moment où une joueuse a quelque chose à dire, et moi, j'estime que c'est plus important que ce que moi j'ai à dire. Donc, c'est pour ça que quand une fille veut prendre la parole, même si j'ai pas fini, je lui laisse prendre la parole.
Ok, ça c'est l'expérience qui te l'a apporté. T'as anticipé un petit peu sur la suite, parce que j'allais te demander justement de rentrer un petit peu plus spécifiquement dans ton métier d'entraîneur. Et j'aime bien cette notion de facilitateur et plus de faiseur. Mais tu sais, quand t'es revenu en 2016, j'ai lu beaucoup d'articles sur toi et beaucoup de portraits étaient titrés « Olivier Crumbles, l'homme providentiel de cette équipe ». Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que ça me fait toujours rire de lire ça. Quand l'équipe gagne, forcément, t'es l'homme providentiel. Par contre, quand elle perd, t'en es souvent la tête de Turc. C'est le jeu quand on est entraîneur. Mais du coup, être entraîneur, est-ce que c'est un métier solitaire ou ça reste quand même un sport d'équipe ?
C'est les deux, mais c'est aussi beaucoup un métier solitaire. Alors, c'est pas inéluctable qu'on tape sur les entraîneurs quand le résultat n'est pas là. On peut aussi tous lutter contre ce fait. Je pense que dans le handball, par exemple, on a mieux lutté que les autres. Si on regarde les carrières des entraîneurs des équipes de France, à part deux, trois passages, ce sont des carrières longues. Daniel Costantini a fait une carrière très longue, Claude Noesta a fait une carrière très longue, et j'en ai fait une encore plus longue, ouais. Mais avec la caractéristique en deux parties. Donc, c'est un métier très solitaire, parce qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas partager. Et ce qui est important dans le métier, c'est le terme des Américains qui est bon, le head coach, le coach en chef. Parce qu'il y a d'autres coachs dans l'équipe. Mon adjoint, Sébastien Gardillou, est un coach. Ceux qui font de la vidéo avec nous sont aussi des coachs. Et il y a de multiples coachs. Le médecin de l'équipe est coach aussi toute une partie extrêmement, extrêmement importante. Et il y a des décisions qu'on prend tout seul et qu'il faut prendre tout seul, notamment dans la composition de l'équipe. Parce qu'il y a un terme important, très usité dans les sports où il y a beaucoup d'argent, c'est entraîneur-sélectionneur. Donc on entraîne, mais on a aussi la responsabilité de faire la sélection. Et nous, dans le handball, la sélection, on la fait seule. Et moi, je la fais peut-être encore plus seule que les autres, parce que je ne veux pas partager cette responsabilité. Elle est tellement particulière, elle demande tellement d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il faut éliminer quelqu'un sur quatre fois rien. Et ça, c'est une responsabilité terrible et énorme. Avec toute la détresse qu'on peut avoir, alors l'athlète en a encore plus de la détresse quand on élimine, mais toute la détresse qu'on a quand on est obligé d'éliminer une fille qui est proche de l'exemplarité, qui a énormément travaillé, qui défend plus que tout autre les valeurs de l'équipe, mais nous, coach, on a l'impression qu'il y en a une qui sera un peu plus rentable, même si le terme n'est pas terrible, un peu plus rentable pour l'équipe. Et ça, c'est dur. Ça, c'est les moments les plus difficiles à vivre. Je pense aussi que dans la tactique, il faut garder cette audace technique que beaucoup ont perdu. Et je pense qu'il y a une notion qui est importante qui pèse sur nous, c'est la différence entre la compréhension et la compétence.
Vas-y.
Compréhension, connaissance, un journaliste, sauf s'il a été handballeur longtemps, à un très haut niveau, il comprend un certain nombre de choses et il a une forme de connaissance de l'activité. Mais en aucun cas, il est totalement compétent pour évaluer ce qui se passe sur un terrain de handball vu la complexité. Parce que si on parle du métier, pour moi, ce qui caractérise le plus le métier, c'est la complexité. Ouais. C'est-à-dire que un vieil acteur que tout le monde connaît, j'espère, qui s'appelait Jean Gabin. Un jour, il a fait une chanson, Jean Gabin, et il a dit, alors il était déjà vieux, il avait une grosse voix, et il chantait « Plus je sais, moins je sais ». Et j'ai cette impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me demande en une page de dire pourquoi l'équipe de France a gagné, en une page, j'en suis incapable. Je ne suis même pas sûr, en m'arrêtant une semaine et en me concentrant, de trouver toutes les clés qui ont été essentielles. C'est multifactoriel. C'est ce qui en fait la complexité. Et notre métier à nous, c'est de gérer cette complexité. Le préparateur physique gère la préparation physique. Le préparateur mental gère la préparation mentale, avec toute la complexité qu'il y a derrière. Le vidéoman gère la vidéo. Et le head coach, il gère l'ensemble du dispositif dans sa complexité et il prend des décisions et il les prend tout seul. Donc oui, c'est un métier où on partage, mais c'est un métier où aussi on est très, très solitaire. Et évidemment, quand on est attaqué, quand on est attaqué derrière, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de l'espérance, soit pour le milieu, soit pour les joueurs, soit pour l'ensemble, on est vraiment un peu tout seul, ouais, quand même.
Hein. Ouais, je vais bien le croire. Et merci d'avoir, du coup, présenté un petit peu le staff plus global de l'équipe de France de handball, parce que, effectivement, tu n'es pas revenu tout seul en 2016. Tu es notamment revenu avec ton adjoint, Eric Barada. Tu as rappelé ton préparateur physique, Pierre Terzi. Tu as aussi fait rentrer dans le staff un préparateur mental, Richard Ouvrard. Pourquoi ?
La préparation mentale, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas dire que les athlètes sont soumis à cette complexité, à ce que j'appelle cette fulgurance décisionnelle. Parce qu'évidemment, quand on est dans un divan devant la télé, avec une bière dans une main et une pizza dans l'autre, et qu'on est supporter, on regarde les images et on se dit qu'on ne se trompe jamais. Pourquoi lui fait la passe à gauche, et pourquoi lui ne tire pas, et pourquoi il a tiré de ce côté-là ? Oui, mais quand on est dans la fulgurance décisionnelle, qu'on a une fraction de seconde pour décider, si on n'est pas bien dans la tête, on va vouloir vérifier qu'on va bien faire. Et là, on ne peut pas être efficace. C'est particulièrement vrai sur les tireurs. Les tireurs, ils ont besoin d'organisation, bien sûr, mais ils ont aussi besoin d'une forme de lâcher prise, de spontanéité, qui ne peut s'obtenir que si l'esprit est libre. Et alors, il y a plein de choses qui permettent à l'esprit d'être libre. Par exemple, le travail va permettre de structurer la motricité, ce qu'on appelle la motricité, et de libérer la joueuse. Plus l'art est travaillé, plus il est libre. Et ça, on a tendance à l'oublier.
Est-ce que toi, ça te sert aussi ? Parce que tu parles d'avoir un esprit léger, mais est-ce que le coach, il doit avoir l'esprit léger aussi ?
Oui, je pense que on est exactement dans la même situation. Parce qu'on est sur une fulgurance décisionnelle un peu moins importante, avérée, mais on est quand même appelé d'abord à gérer énormément de choses sur le banc de touche. Comme je leur dis de temps en temps, vous n'êtes pas simple à manager. Alors, je ne me rends pas les choses simples non plus, puisque j'ai une technique de managerat qui vise à amener à la fois toutes mes joueuses à la fin de la compétition, toutes mes joueuses en intégrité et en excellente condition physique, et si possible, toutes mes joueuses en confiance. Parce que si, sur les 7 premiers matchs, vous n'avez quasiment pas joué, et qu'on vous propulse sur la finale, sur le terrain, c'est compliqué. C'est compliqué d'être en confiance, et c'est compliqué d'être dans la fulgurance décisionnelle. Donc ce turnover incessant, il est assez stressant. Il est stressant pour les athlètes aussi, qui sont frustrés quand ils jouent un peu moins longtemps que ce qu'ils ont l'habitude ou ce qu'ils aiment. Hein, parce qu'un athlète, il encaisse tout ce qu'il encaisse pour être sur le terrain, pour être sur le terrain pour jouer au handball, pour jouer au handball des matchs importants, des matchs décisifs. Et face à cette envie, quand le coach il est un peu castrateur, parce qu'il fait des périodes plus courtes, c'est pas évident, ça nous met en tension par moment. Mais je sais plus où on en était dans...
Voilà. Est-ce que tu fais de la préparation mentale, en fait ?
C'était ça. Moi, je vais pas dire que je travaille en préparation mentale, mais je suis en contact permanent avec le préparateur mental, on échange beaucoup, moi je me livre facilement avec lui, et que je pense que d'une certaine manière, oui, je fais de la préparation mentale. Mais j'essaye surtout d'avoir du recul. Et j'essaye surtout d'organiser mon emploi du temps pour pouvoir avoir du recul. Et de ne pas être, comme malheureusement sont les joueuses, dans le tambour de la machine à laver. Parce qu'elles, elles ont une caractéristique, c'est que quand elles arrêtent l'équipe nationale, elles filent en club. Donc, elle passe du tambour équipe de France au tambour club. Et que moi, même si j'ai du travail pour tout préparer, j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps et pouvoir récupérer et pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est ça le secret, c'est ça le secret de la longévité, en fait.
C'est récupérer ?
Ben oui, c'est récupérer, prendre du recul, être philosophe et puis être très ambitieux. Parce que ce qui permet de supporter les coups qu'on prend, c'est l'ambition. Si on n'a pas d'ambition, à un moment donné, ça devient intolérable. Surtout, ce qui nous pose plus de problèmes, c'est quand on a l'impression que les valeurs sont plus respectées. Parce que les valeurs, c'est les fondations de la maison. C'est les fondations de la maison dans la société, c'est les fondations de la maison dans la famille, c'est les fondations de la maison dans l'entreprise, et c'est les fondations de la maison dans le sport. Et quand on a la sensation que les valeurs ne sont plus partagées, ne sont plus respectées, on est au bord de l'implosion. Et ce qui nous fait tenir, c'est l'ambition. Parce qu'on veut absolument continuer, réussir, et on est capable de vivre cette déchirure qu'on a au fond de nous, parce que le plus important, c'est de gagner.
Mais comme... Ça me touche parce que, tu vois, tu parles justement de valeurs. Moi, j'ai senti une cassure terrible à un moment donné où j'avais l'impression que j'arrivais plus à me mettre humainement au centre de ma performance. Et où, finalement, l'enjeu prenait beaucoup de place dans une matrice où, en plus, l'enjeu, comme tu dis, c'est de gagner. Et donc, tu disparais. Et quand tu peux pas prendre ce recul... Tu casses, quoi.
Mais oui, mais il y a une grande question dans le sport de haut niveau, c'est est-ce qu'on peut développer une ambition énorme et à la fois avoir une aventure humaine exceptionnelle? Certains pensent que ce n'est pas possible, moi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible et les filles de l'équipe de France pensent aussi que c'est possible. Ce qui fait que quand on se met en tension entre nous, on se fait souffrir en fait, parce que c'est pas la vision qu'on a de ce qu'on veut faire. Et quand je dis qu'il faut être philosophe, c'est on a un regard aussi attendri 10 ans ou 15 ans après sur les épopées réussies et les épopées ratées, parce que c'est de l'aventure humaine. Et donc le plus enrichissant, c'est l'aventure humaine. Le seul plaisir sur Terre, c'est les autres. Tout seul sur une île déserte. En admettant que les noix de coco sont faciles à aller attraper, qu'on va manger, et que de temps en temps, on va attraper facilement du poisson, et quand bien même, qu'est-ce qui va manquer? C'est l'humain. C'est l'humain, c'est ce qui est le plus difficile. Mais je crois que c'est possible. Il faut développer de l'humanité. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Au travers de la bienveillance, l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose d'essentiel. Partout.
Et bien, l'empathie, je pense que ça commence par soi. Et quand tu es arrivé, quand tu es revenu en 2016, il y a des joueuses emblématiques de l'équipe de France, comme Alexandra Lacrabert, qui disaient qu'elle était très reconnaissante du courage que tu as eu d'être vulnérable avec elle. Bon, moi, je suis un peu curieuse. J'aimerais savoir ce que tu leur as dit, sur ce que tu avais peut-être appris, justement, de cette pause forcée que tu as vécue. Ou du moins... Oui, en quoi, déjà, est-ce qu'il faut forcément, en tant qu'entraîneur, ouais, oser être vulnérable?
Moi, je pense qu'il ne faut pas vouloir cacher ses faiblesses, mais ce n'est pas des faiblesses. Hein, je dis toujours, il faut se laisser traverser par les émotions. C'est ma femme, Corinne, qui m'a sorti cette phrase-là, et c'est bien vrai. Parce que l'émotion, elle arrive, il faut l'accueillir, il ne faut pas chercher à ce que... Elle rebondit sur soi, c'est ce qu'on apprenait aux garçons avant. Hein, on disait aux garçons, tu vas pas pleurer comme une fille. Bon, c'était complètement ridicule. Mais j'essaye d'être foncièrement humain avec les filles. Et donc à partir de ce moment-là, bon, des fois je cache mes émotions comme tout le monde. Hein, parce qu'à un moment donné, on se dit que pour le bien de l'équipe, l'équipe n'a pas forcément besoin de voir que... On est un peu en peine, on est un peu en difficulté, mais quand les choses sont importantes et qu'on est vraiment touché, notamment quand on est touché, on va dire négativement, il ne faut pas avoir peur de se livrer et de montrer que chaque être humain a une fragilité. Par moments, on est touché au cœur et les émotions doivent s'exprimer. Moi, ça m'arrive de pleurer. Ça m'arrive de pleurer, pas souvent avec les joueuses, mais ça m'est arrivé, ça m'arrive. Et j'étais très touché par le départ d'Alexandra Lacrabert, hein, au cours de cette compétition, parce que pour le coach, c'est une déchirure. on parle des fois de la sélection de certaines joueuses et la non-sélection de certaines joueuses, mais quand il faut ne pas prendre une ancienne, ou quand au cours de la compétition, puisqu'on a droit maintenant à des remplacements, je prends la responsabilité de remplacer une ancienne, c'est terrible, c'est terrible. Et dans ces moments-là, ça craque, quoi. Elle pleure, et moi aussi. Je voulais parler d'elle dans un speech du match suivant, et je n'ai pas réussi à parler. Alors j'ai pris le feutre, et j'ai écrit Alex en grand sur le tableau. Voilà. Parce que je n'arrivais pas à parler.
Ah, c'est touchant, ça.
Ouais, je pense que ça les a touchés, ouais.
Bah ouais. Tu parlais de tes valeurs tout à l'heure. T'as beaucoup parlé de travail, d'abnégation, de passion aussi. Si tu devais faire... Tu as dit que c'était pas possible de le faire sur une page. Mais est-ce que si tu devais réfléchir peut-être un petit peu à un framework d'ingrédients pratiques pour performer à très haut niveau, tout en maintenant en tête, enfin tout en ayant en tête qu'effectivement c'est très complexe, est-ce que tu pourrais nous faire un petit paysage, voilà, de ces ingrédients?
Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus, il vient quand même du mental. Et par exemple, le plus de l'équipe de France aujourd'hui, puisque cette équipe a des résultats exceptionnels depuis 4-5 ans, le plus, c'est l'ambition. L'ambition partagée, et alors quelque chose qu'elles ont poussé encore plus loin, c'est la conviction. Elles sont convaincues, et de plus en plus convaincues, qu'elles peuvent y arriver. Alors, ça, ce qui est bien et pas bien, c'est que ça élève leur niveau d'exigence de manière exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont persuadées que, non pas elles peuvent gagner, elles doivent gagner. Elles ont compris, et ça c'est un deuxième facteur, que le travail, il n'y a que le travail qui allait leur permettre d'élever leur niveau de compétence. Donc la conviction et l'ambition les poussent à travailler de plus en plus et sur un travail partagé. Et là, je pense que la notion de partage dans une équipe, c'est une notion importante. Ensuite, il y a des choses qui sont très classiques dans une équipe. Il faut du talent. Dans le sport, il faut du talent. On va dire qu'il faut une somme de talent, mais il ne faut pas que du talent. Dans une équipe, même au plus haut niveau, il y a des artistes qui sont dépositaires du talent et il y a des artisans. Et l'une des choses importantes du coaching, c'est de faire cohabiter en permanence ces deux populations. Parce que l'artiste ne fonctionne pas comme l'artisan. L'artiste aime le beau jeu. L'artiste aime mettre des beaux buts. L'artisan aime marquer le but, point à la ligne. Et l'artiste aime inventer des gestes. L'artisan aime maîtriser les gestes. Et ces deux populations vivent ensemble dans un groupe et ils attendent beaucoup du coach à bien faire vivre ces personnes ensemble. La capacité à faire vivre les groupes qui sont dans des moments de grande tension, c'est aussi un élément majeur. Je dis toujours qu'un peu tristement, un groupe d'êtres humains est plutôt appelé à s'autodétruire à perdurer, avec des éléments majeurs qui peuvent l'amener à l'autodestruction. Et l'un des éléments majeurs, c'est la victoire et la réussite. Parce que quand on a couru après la victoire, qu'on est très ambitieux, qu'on est très convaincu qu'arrive une victoire, tu parlais de Richard Ouvrard, hein, qui a eu un rôle essentiel dans cette réussite. Richard Ouvrard, après les victoires, leur dit: il faut descendre de la colline avant de remonter sur l'autre colline. Les athlètes, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir sauter du haut de la colline sur l'autre haut de la colline. Sauf qu'il y a 3 km et que même si elles ont beaucoup de qualités physiques, elles ne vont pas faire ce saut de 3 km pour être du point culminant de leur réussite ici vers l'autre point culminant. Et donc cette redescente, une notion essentielle pour la faire, c'est la notion d'humilité. Quand on parle de valeur, la valeur essentielle, c'est l'humilité. Celle qui permet de continuer, celle qui permet de rester abordable, celle qui permet de ne pas motiver bêtement son adversaire parce qu'on est arrogant, c'est l'humilité. Sun Tzu, l'art de la guerre, jamais tu ne motiveras ton ennemi.
Est-ce qu'il y a des mythes et des mythos que ton expérience te permet aujourd'hui d'évacuer sur le processus de performance?
Je pense qu'il arrive un moment où on peut se perdre et avoir une vision qui est totalement irréaliste de la situation. Et qui a changé un petit peu par rapport à ma première partie de carrière, c'est que là, quand elles sont dans leur trip, je les laisse un maximum dans ce voyage personnel, avec par moments un peu de délire. Mais si c'est un petit peu de délire, c'est pas grave. Alors que avant, c'est vrai, je voulais tout commander, tout diriger. Il y a une notion très importante dans le coaching, c'est la notion de lâcher prise. Quand il y a un temps mort et qu'il y en a une qui se précipite, qui veut parler, il faut faire preuve de lâcher prise. Même si on est le boss, même si on a plein de choses à dire, envie de dire, mais il y en a une qui est là, elle est joueuse, elle a vu quelque chose sur le terrain, elle veut le transmettre à ses partenaires, ça aura plus de force, plus d'impact que ce que je peux dire moi.
Ok, donc c'est savoir rester à ta place aussi.
Oui, savoir rester à sa place et rester un facilitateur, rester peut-être que 5% du potentiel et de la valeur de l'équipe et du côté agissant dans l'équipe, mais il faut les vivre pleinement, il faut les assumer pleinement ces 5%.
Ouais, ok. Tu as parlé de fantasme aussi. Est-ce que des fois, l'entraîneur, il doit avoir la clairvoyance et le courage de dire ce qu'il pense vraiment du potentiel de son équipe?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce que si on veut avoir de l'impact, si on veut être charismatique, il faut donner l'image de quelqu'un de franc et de quelqu'un de lucide. Et que par moment, on doit ramener son groupe à une certaine lucidité. Parce que de victoire en victoire, et dans leur envie d'échanger du positif entre elles finissent un petit peu par délirer par moment. Et il faut certainement les ramener à une certaine forme de réalité. Ou les aider à ramener la réalité au niveau de leur ambition. Parce que si on a une différence entre la réalité, ce qui est le niveau de jeu, et l'ambition, que cette différence est très importante. Ça, dans la vie de tous les jours, si on voit cette différence, on va ramener son ambition au niveau de la réalité, sinon on explose. Mais moi, je leur ai dit, mais comme vous êtes des championnes, vous allez ramener la réalité au niveau de votre ambition.
Et donc, c'est là qu'intervient le travail et l'humilité.
C'est là qu'intervient le travail et l'humilité. Mais ce qui est important, c'est le travail dans toutes les directions. Et c'est pour ça que je dis que Richard Ouvrard a fait un travail extraordinaire. Parce que l'équipe de France, c'est un cheval fougueux. Voilà. Et on essaye tous de maîtriser le cheval fougueux.
Ok. Merci, Olivier.
De rien.
Pour finir, est-ce que tu as une recommandation pour moi d'inviter une joueuse, un entraîneur, quelqu'un qui t'a peut-être marqué ou quelqu'un qui, comme toi, pourrait venir nous parler comme ça de réussite, de santé mentale, de préparation mentale, de performance?
Il y en a plein, hein, des choses qui ont beaucoup, des défis qui ont beaucoup de choses à dire. Après, quand on prend les joueuses qui ont beaucoup d'expérience, je pense à Siraba Dembélé, je pense à Amandine Leno, mais je pense aussi à quelqu'un d'extrêmement sensible et d'assez atypique dans le milieu, je pense à Estelle Zemenko, qui aurait certainement un très bon feeling avec toi. Après, les jeunes aussi ont beaucoup de choses à raconter. Chloé Valentini, qui joue maintenant à Metz, et une fille qui est en train de prendre un beau chemin, et qui construit, qui co-construit son handball et sa vie personnelle. Quelqu'un de très, très attachante. Mais il y en a plein. Il y en a plein des joueuses qui... le tout, c'est qu'elles elles arrivent à se livrer. Et puis, bon, par moments, on ne peut pas tout dire non plus. Ce qui est en équipe de France reste en équipe de France.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me faire part de vos retours à l'adresse handpaperspodcast@gmail.com ou sur Instagram à @handpapers. Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast si vous avez un Mac ou un iPhone, ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Bisous.